Charpente et couverture. Vous avez vu qu'il y avait deux sortes de charpentes. Les voilà là. Alors, la charpente Vallée-la-Vienne, basse. Mais vous trouverez ça dans les notes. Avec le tyran ici, l'arbalétrier, le poinçon. La charpente à la mansarde, le brisi, le terrasson. L'entrée et l'autre, le tirant d'en bas ou l'entrée d'en bas. Ça, c'est une entrée retroussée. Quand même, il faut que je... Voilà, voilà, ça, commentons ça. Ça, c'est dans les pays de toit pointu. Voilà l'entrée. Entrée veut dire qui tire, ça s'appelle le tirant. Parce qu'une triangule, une charpente, une ferme, c'est pas une exploitation agricole. C'est une pièce de bois là, une autre pièce de bois là, une autre pièce de bois là, qui sont tenues et donc indéformables. Et pour soutenir cette portée-là qui peut être très longue, plus de 10 mètres, on met un poinçon qui descend en bas, qui va sous la panne faîtière et qui est chevillé ici au cercle de fer. Là, il a été réparé. Voilà. Et là, on peut mettre des petites contre-fiches pour tenir les arbres à l'étrier. Et alors, comme ce système-là arrive sur une arase, mais pas à la sortie du mur, pour protéger le mur de l'eau, on a fait une petite pièce de bois qu'on appelle le coyot, qui vient du mot de queue, écharpé en longueur, avec une échalote dessous. Ça a une histoire très très longue, ça. Je vais mieux l'expliquer là, si je peux. C'est, voyez-vous cette pièce-là, autrefois, dans beaucoup de ces charpentes, c'était de la pierre en tas de charge qui était posée là, 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 là. Il n'y avait pas besoin de couvrir le mur. Ou bien le chaume. Pareil, le chaume, parce que si on fait arriver l'arbalétrier là, au ras du mur, il va rentrer dans la cour. Il faut qu'il soit arrêté par la pièce de bois qui est là. Donc il est forcément en retrait du mur. Mais comme on couvre ou en chaume ou en pierre plate, on est sûr de dépasser le mur et d'abriter le mur. Mais lorsqu'on a déchaumé, il y a déjà un siècle, et qu'on a enlevé les pierres plates, on s'est aperçu comment il faut... Ben on a tout de suite compris. Si on avait fait avec des tuiles plates, ça, la tuile plate, elle arrive là. Alors on a mis une autre pièce de bois, en écharpe, avec un talon d'ailleurs, qui est là en sifflet et qui donne de la pente au toit sur laquelle on met une pièce de bois là et puis les petits tasseaux pour tenir les tuiles. Le pureau est là. Le pureau, c'est ce qui est vu. Ça s'appelle une échalote. Retenez le mot coyot si vous pouvez, d'oublier son fer, chevron, lati de lito et la sablière. Voilà toute l'histoire du coyot. C'est pour... On a changé de couverture et il faut protéger la race du toit. En gros, c'est ça. Ou du chaume ou de la pierre. Voilà le type de maison de cette... Vas-y. Voilà, on en a parlé. Alors, là, vous avez justement, en tas de charge, voilà la pierre posée. Ça, c'est une photo, mais reprise à la plume. Vous voyez, là, on voit très bien les pièces de bois sous lesquelles sont enfoncées chacune des pierres plates, tiolo grigio, ou qu'on appelle aussi les bâches chez moi, qui veut dire lib, pierre, libage. Et voilà, là, voici. Alors, toutes les charpentes, toutes les fermes se suivent. Bon, rien que ça, ça demanderait une heure d'explication. Voilà, alors, un autre tas de charges, pareil, dans d'autres pays, peut-être le Caux ou ailleurs. Vous voyez ? Là, voilà, en vue, en réalité, le tas de charges est là, vous voyez ? Mais les paysans, quand ils ont changé le tas de charges, ils n'ont pas changé, ils ont fui de la tuile, mais ils ont laissé la rase. Ça leur évite de faire un coyot. On le retrouve ici. Voilà, ça, c'est dans le pays de Saint-Thierry, parce que Saint-Thierry-la-Perche est un pays où le gneiss se délite beaucoup, et on a fait au 18e, 17e siècle énormément de maisons, on ne peut pas s'en rendre compte, toutes en tas de charges. Si on défait des vieilles maisons dans Saint-Thierry-la-Perche, quand je peux, je monte voir les tas d'arbalétriers, tous les 22, je vois la trace de la lisse qui tenait les pierres. Donc ça, c'est d'ailleurs des vieux manuscrits, à l'époque, disent qu'on recherche des couvreurs à pierre. Bon, ça y est, voilà en dessous ce que ça donne. Enfin, il faut arriver au cas de figure. Bon, oui, on va passer. Ça, c'est le... Le bardeau, ou essaim, ou tavaillon, le voilà bien placé sur des petits hangars. Mais maintenant, voyez-vous, ça ne sert plus que pour de la plaisance. Ça coûte très cher. Dans certaines communes, il y a des recensements de 1760 dans la commune de Saint-Vite-sur-Briance, qui est entre Émoutiers et Châteauneuf-la-Forêt, où il y a un tiers des maisons sont recensées couvertes à bardeaux. C'est bien dit, à bardeaux. Et donc c'était très très connu à l'époque. Et dans ma carte, ça apparaît. Vous pouvez la faire apparaître. Voilà, c'est là le pays. Les dernières survivances du bardeau sont là, dans cette région-là, selon des témoignages des Écritures. On ne l'a pas vu, on le voit que sur les clochers. Mais c'est réel. Et là, c'est les survivances observables encore en 1950 du chaume. Là, c'est le royaume de la tuile de, par là-bas. Là, c'est la tuile d'ici. Et là, c'est à la fois un peu ça et un peu ça quand on a défait le chaume. Ça, vous savez ce que c'est. Maintenant, c'est la tuile courbe. Là, c'est la tuile plate. Et là, dans ce petit endroit-là, c'est l'état de charge qui sont en juxtaposition avec ce petit îlot. C'est l'îlot recensé des 2050 granges en chaume au Valère sur poteau qui existaient au premier cadastre napoléonien et qui ne sont plus que 30 ou 35 ou 40. Fin de la note, complet. Ça, c'est ce qui restait il y a déjà 30 ans dans Observable encore des chaumes. Voilà les granges au Valère, le fond de la grange au Valère. Là, c'est une restauration de chaume. C'est commune de Corrèze, canton de Corrèze.
Mérignac-l'Église.
Alors, c'est des propriétaires qui refont entièrement, qui font refaire, avec des chaumiers qui font du chaume avec du côté de Hérin, là-bas. Il y a tout un gisement, on fait pousser du seigle dit russe, parce qu'il est plus long, et on fait des, oui, et on fait de magnifiques travaux comme ça. Ça, ça s'appelle la Mouréa, les museaux.
Mouraine.
Non, rien à voir avec Mouraine. Il y en a qui ont traduit des Mouraines.
Ouais.
C'est les non, rien à voir, c'est pas les moraines des glaciers, hein, c'est les museaux. Voilà, bon, peu importe, il y a différentes manières.
C'est
mourine,
c'est pas
mourine. C'est mourine, j'arrive. C'est mourine. En oc, nous disons, quoi la mourine. Alors, là, vous avez la petite tuile carrée de la Sac-Tavassac, avec ses lucarnes rampantes très bien connues. Très intéressante. Alors ça, c'est autre chose. C'est ce que je vous ai montré là-bas. C'est le gros micaschiste du Cantal, mais de la Xaintrie, qui est chevillé. Et vous voyez, il est ogival. Regardez un peu le travail. La goutte continue et se transmet correctement son humidité par le bas. Voilà des maisons couvertes entières. Ça, c'est aussi... Ça y est, vous savez tout. C'est fini. Donc, c'est des dépôts de tuiles. Voilà une tuilerie. 150 tuileries en Haute-Vienne, hein, en 1860. Plus que 3 aujourd'hui. Les épis de faîtage, qui sont ornés et qui sont toujours sur les croupes et qui sont censés être, primitivement, être des poteries de lait retournées pour protéger le haut du poinçon et maçonner autour. Après, l'ornementation, l'ostentatoire a pris le dessus. On s'inspirait, paraît-il, de choses autrichiennes vues, paraît-il, ce seraient des anciens soldats qui seraient revenus des campagnes 1815. Moi, je n'y crois pas du tout, mais enfin, ça peut être. Hein. Là, cet oiseau tourne, et ça siffle. Là aussi, ils sont mobiles dedans. Ces épis de faîtage, il y en a qui sont très hauts, d'autres plus courts. Ça, c'est les tuileries du Limousin, de la Haute-Vienne. Vous voyez partout, il y en a plus que 3 ou 4. Dans le Limousin, en Corrèze, il n'y en a plus. En Creuse, il y en a une à Pouligny qui a repris du service pour les démonstrations.